Que dirait Jésus aujourd'hui? Je pense qu'il aurait un message par rapport à notre époque. Et je voudrais regarder et lire avec vous ce qu'il dirait. Je vais introduire avec la lecture de l'Évangile selon Luc au chapitre 13 et verset 1er. Luc chapitre 13. Nous n'avons pas aujourd'hui du soleil à vous donner pour vous mettre vraiment dans le bain de lumière qui nous étonne depuis des années. Mais ça va venir avant la fin de la réunion. Luc 13, verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice, une tuerie. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, si vous ne changez pas de comportement par rapport à Dieu, voilà, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Un attentat au temps de Jésus, une tour qui s'écroule, c'est l'actualité de tous les jours dans le monde. Et Jésus, devant ce drame, va surtout dire « Il n'était pas plus méchant que vous, donc soyez prêts. » En regardant le monde d'aujourd'hui, que nous dirait Jésus ? En regardant seulement les événements de cette semaine, en regardant seulement les événements depuis 3 jours, que nous dirait Jésus ? Peut-être qu'il nous parlerait de ce petit microbe qui est en train de tuer tous les oliviers d'Italie, tout le romarin, tous les amandiers, tous les arbres d'Italie, et devant lequel, cette petite bête, on ne peut rien faire. Les oliviers vieux de 2000 ans ne résistent pas à cette petite bête qui rentre dans la sève et qui étouffe l'arbre et qui se propage d'olivier en olivier. Rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit « Vos figuiers et vos oliviers, il y a de cela presque 3000 ans, ont été dévorés par les sauterelles, mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi chercher du secours. » Peut-être que Jésus nous dirait « Et dans vos âmes, dans vos foyers, dans vos maisons, est-ce qu'il n'y a pas des bactéries ? Est-ce qu'il n'y a pas du mal ?» qui étouffent votre vie, qui se logent au plus profond de vos cœurs et qui apportent une contagion dans tout ce que vous faites. Je crois qu'il y a des bactéries pas que dans les oliviers, mais dans toutes les maisons, dans tous les cœurs, et que nous sommes aujourd'hui dans une déstabilisation. Je pense au fleuve Amazon cette semaine. À cause du climat qui est bouleversé, le fleuve Amazon est capable, c'est l'un des plus grands fleuves du monde, de monter jusqu'à 15 mètres de hauteur, aussi haut que les voûtes de l'église. 15 mètres. On les a mesurés, on a travaillé à 15 mètres. Je pense à ces eaux de l'angoisse qui montent, ces eaux de la peur qui montent toujours plus, conduit certains au suicide, qui conduit certains dans la débauche. Mais Dieu nous appelle dans ces temps-là. Et il nous dit, si tu traverses les eaux du découragement, les eaux du souvenir qui se collent à ta peau, je serai avec toi et les fleuves ne pourront pas te submerger. Nous sommes dans une époque qui a besoin du secours de Dieu. Nous avons tous été sensibilisés par le drame des migrants. En s'appuyant sur le bord du bateau pour appeler du secours, en s'appuyant tous sur le côté du bateau, le bateau a chaviré. 700 ou 900 morts. Il faut dire que sur cette Méditerranée, cette année, 120 000 naufragés ont été sauvés. Ça montre l'ampleur du drame. Dans certains endroits de Sicile, il n'y a plus de place pour enterrer les morts, tellement la mer rejette des centaines, des milliers de morts. On pense au Titanic, qui en une nuit a vu 1500 personnes mourir. Là, en trois jours, 1500 personnes sont mortes aussi dans les eaux de la Méditerranée. Alors le Titanic, ça représentait l'orgueil du XXe siècle. La technologie, le plaisir, l'argent, le succès, l'assurance, et tout s'est écroulé. Mais que représente pour nous ces petites barques de pêche remplies de migrants qui coulent dans l'eau? Je pense que ça représente que la terre est devenue inhospitalière et que les hommes ne savent que faire, cherchant partout un refuge. Mais ça montre aussi, ces naufrages, notre indifférence, mais aussi notre incapacité de faire quoi que ce soit. Jésus disait, au bruit des flots, je voudrais presque traduire, au cri des flots, les hommes ne sauront pas que faire. Ça nous montre notre incapacité devant un malaise mondial qui, depuis 3 ans, remplit le monde entier. Il y a aujourd'hui une mondialisation de l'indifférence. On n'a pas de quoi faire. On ne sait pas quoi faire. On ne dirige plus le bateau. On ne dirige plus le monde. Nous n'avons plus qu'à appeler Dieu à notre secours. Je crois que devant ces migrants, Jésus a un message. Un message pour eux, un message pour nous. Et si Jésus était là, il nous dirait certainement ces migrants n'ont pas commis plus de péchés que les autres. Et peut-être que nous en pourrions entendre la voix de la Bible qui dit « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et peut-être que nous nous rappellerions l'histoire du bon Samaritain où le religieux passe devant le blessé en disant au fond de son cœur « C'est pas mon affaire, c'est pas mon problème. » Et il continue son chemin. Je ne suis pas le premier à le dire. Quand on recherche le bien-être à tout prix, cela nous rend insensibles aux cris des autres. Le bien-être, rechercher pour le bien-être, c'est vivre dans une bulle de savon. Vous avez déjà fait des bulles de savon ? J'en faisais beaucoup quand j'étais enfant. J'en ai pas conservé une seule. Toutes ont disparu. Quelques secondes seulement de vie. Mais chercher le bien-être, c'est, je crois, se mettre dans une bulle de savon qui est très jolie, qui reflète toutes les couleurs du monde, mais qui n'est rien. Nous avons l'illusion, simplement, du provisoire. Et dans cette bulle de savon, la souffrance des autres ne nous intéresse pas. Jésus disait, je le répète, les hommes ne sauront pas quoi faire. Nous sommes incapables, capables de marcher sur Mars, sur la Lune, incapables de sauver notre prochain sur la terre, il nous manque quelqu'un aux commandes. La Bible dit, il y a longtemps, il y a plus de 2700 ans, la Bible disait, les hommes seront errants d'une mer à l'autre, du nord à l'orient. Ils iront ici et là pour chercher une parole de Dieu, un secours. Ils sont errants aujourd'hui. Je pense à l'Érythrée dans la corne est de l'Afrique, où il y a, c'est un petit pays avec 6 millions d'habitants. 1 million déjà est parti. C'est comme si en France, on avait presque 10 millions de gens qui partaient parce que ça allait très mal. Ils ont traversé le désert pendant des semaines, sont arrivés en Libye où ils ont été, on a pris leurs organes pour les vendre, on les a tués, on les a blessés, certains ont pris le bateau, etc. Pour arriver dans un pays où ils ne sont pas les bienvenus. Voilà l'état de notre monde. La terre est devenue inhospitalière. On a besoin que Dieu vienne nous donner une parole. Martin Luther King disait déjà à cette époque, en 1965, devant l'état des États-Unis, il disait « Il est minuit, parce qu'on n'aime plus son frère, parce qu'on ne pardonne plus, on a besoin du pain de l'amour, du pain de la foi et du pain de l'espérance. Il est minuit, disait Martin Luther King. » La Bible dit « Au temps de Noé, il y a longtemps de cela, mais Jésus a dit « Ce temps-là va revenir. » Et je pose la question, ce temps de Noé, peut-être il est déjà là au milieu de nous. Au temps de Noé, la terre était remplie de violence. Tout le monde se déchirait. Les pensées des hommes se tournaient uniquement, chaque jour, uniquement vers le mal. Et Jésus a dit, le temps de Noé va revenir. Où les gens vont se marier, marier leurs enfants. C'est beau, magnifique, mais derrière cela, il n'est que violence. Comme en Afrique du Sud la semaine dernière, pendant 3 semaines plutôt, il y a eu une violence contre tous les étrangers. Des milliers ont été chassés sur le champ d'Afrique du Sud. Des magasins ont été pillés. Il y a eu des morts. On ne peut plus vivre. La Bible dit, un jour viendra où les hommes diront aux montagnes, tombez sur nous. On ne peut plus vivre sur la terre. C'est terrible. Mais j'ai un message à vous donner, en conclusion, bien sûr. Parce que quelqu'un nous a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Écoutez-moi et vous vivrez. Mais nous, on dit, Seigneur, comment vivre ? Comment vivre, mes amis, quand on envoie sur des quartiers d'enfants en Syrie des barils remplis de TNT et de clous? C'est terrible. On se demande dans quel monde on est. On a tous des portables qui fonctionnent, on a tous des ordinateurs, on a tous des voitures. Et pendant ce temps-là, on envoie des barils de clous qui explosent sur les enfants. Et le président qui dit « c'est pas nous ». Nous, on n'envoie que des bombes conventionnelles, ça veut dire des bombes propres. Je ne vois pas la différence entre une bombe conventionnelle et puis une bombe qui n'est pas conventionnelle. Jésus a dit dans les derniers jours, les gens seront cruels, insensibles, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence religieuse, mais reniant ce qui fait la force, c'est-à-dire la foi, la charité, l'espérance. Jésus nous dit plus que jamais dans ce temps-là, venez à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Celui qui repose à l'ombre de Dieu est bien protégé. C'est notre seule protection aujourd'hui, venir à Jésus. La terre est devenue hostile à l'être humain. Nous l'avons rendu hostile. Un petit exemple. Cette semaine, C'est peut-être un détail, il n'y a pas eu de mortalité. Le désert de Gobi, un des plus grands déserts, un désert de Chine, il avance vite, à la vitesse d'un cheval. Il remplit, il pousse les gens, il pousse les maisons. Il avance. On ne peut plus vivre dans le désert. Les villes ferment, les maisons s'écroulent, les gens sont obligés de s'en aller. Il avance. Quelle étrange chose. Alors ils mettent des barrières d'arbres, des barrières de végétaux pour freiner ce désert inhumain qui avance. Et le message sera donné à la génération qui vient, à l'autre après. Pendant 100 générations, on dira aux jeunes, faites attention, il y a un monstre devant vous, du sable par milliards de tonnes qui vient sur vous, le désert de Gobi. Et les villes chinoises partiront toutes les unes après les autres. Et pour moi, ce désert de Gobi, qui est monstrueux, il représente le mal, la banalité du mal. Le mal qui nous... C'est rien du moment qu'on mange, qu'on boit. Le mal qui détruit tout doucement. Banal, mais qui détruit. On détruit actuellement, je ne pleure pas sur ces choses, mais je m'interroge. On détruit Nimroud, la ville biblique en Irak, la ville qui a vu tellement nos patriarches, Abraham, et qui a vu les déportés juifs, capitale de la Syrie. On l'a détruit complètement, tout, on casse tout, tout ce qui était les plus vieilles choses de l'humanité. Des Dominicains ont réussi à prendre 40 000 livres uniques au monde parce qu'on voulait les brûler nuit par nuit pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. Ils ont évacué 40 000 livres, des archives par tonnes, pour protéger la plus ancienne écriture, les plus anciennes histoires, les plus anciens manuscrits, les plus vieilles choses de l'humanité. Ce sont des papiers, bien sûr. Mais ça veut dire une chose. Ça veut dire, on ne veut pas du passé. On ne veut pas de parents. On ne veut pas des histoires du passé. Mais le passé nous apprend des leçons qui nous permettent d'entrer dans le présent. Si on renie son père et sa mère, on se suicide soi-même. On enlève ce qui fait la source de la vie. Le passé, c'est notre source. Qu'il ait été beau ou moins beau, il faut que j'écoute la leçon du passé. Et on ne veut plus, on enlève son intelligence, on enlève son cœur, on enlève ses sentiments, on ne veut plus de parents, on ne veut plus de ses archives. Alors, je ne l'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas. Je ne pleurais pas, c'est sûr, sur ces statues qu'on détruit, évidemment. Mais je crois que ça représente finalement ce désir de dire l'humanité, c'est rien. L'humanité, elle n'a pas de passé, elle n'a pas d'avenir, elle n'a pas de présent, elle n'a rien. C'est quelque chose de négatif complètement sur notre monde. Alors on nous filme les bulldozers qui détruisent, bien sûr. Jésus disait, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent, ou l'homme sera un loup pour l'homme. Bientôt, nous allons recevoir ici probablement Magda Lafont. Cette femme juive déportée en juillet 44 avec le grand train de 540 000 personnes venant de Hongrie, une Hongroise. Ce train qui allait à Auschwitz, ce dernier grand train de juifs, 500 et quelques mille. Et puis, Magda Lafont faisait partie de ce train. Elle a 88 ans, se porte bien encore, grâce à Dieu. Et en arrivant à Auschwitz, eh bien, il y a un homme qui lui a enlevé ses vêtements, qui a pris son peu d'argent. Elle avait 16 ans. Il a tout arraché. Cet homme, en ce moment, il est jugé. Il s'appelle Gröning. Il est jugé pour avoir pris l'argent des Juifs de Hongrie, leurs vêtements, leur monnaie. Et il va être condamné, un mot qui me surprend, je ne suis pas habitué à ce mot-là. Il va être condamné pour participation à l'entreprise de la mort. Entreprise de la mort. Il y a une entreprise de mort. Le diable, c'est celui qui a le pouvoir de la mort. Et nous sommes protégés par le Christ face à cette entreprise qui prend différents noms, différents visages, différentes formes, cette entreprise de la mort. Voilà des mots nouveaux, entreprise de la mort. À quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je regarde ce qui se passe en ce moment et je vois que dans ce terrible camp d'Auschwitz, où il y a eu 6500 rescapés SS, les bourreaux, vous savez que sur les 6500, 9 seulement ont été condamnés. Le reste, acquitté. Vous avez brûlé des enfants vifs, vous avez mis 4 millions de personnes dans le feu, acquitté. C'est fini, on n'en parle plus. On appellera mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Seigneur, viens bientôt. Prends-nous aujourd'hui là dans ton cœur afin que nous soyons attirés vers l'amour de Dieu. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on parle beaucoup de ce fameux génocide en Arménie. Je vous dis un mot important là-dessus. Le mot génocide est très compliqué, vous le savez. Un génocide, c'est une intention, un désir, une volonté de tuer tout un monde. Pas par hasard, pas une volonté. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Enfin, on a mis à mort 1 500 000 personnes créées à l'image de Dieu. Tous des chrétiens. Comme je suis chrétien. L'Arménie est le premier pays chrétien au monde. Ce pays avait décidé que l'Évangile serait sa loi. Il y a longtemps de ça. Et un jour, dans une église protestante comme la nôtre, quelqu'un a parlé, inspiré par Dieu, et il a dit « Partez tous, parce que la mort arrive. » Tout le monde est parti. États-Unis, France, ont pris le bateau, ils sont partis, ne sachant pas pourquoi. Mais quelques semaines plus tard, la tragédie. Pourquoi ? Le psaume 44 que j'ai commenté à la radio cette semaine dit « C'est à cause de toi qu'on nous égorge tout le jour. C'est à cause de toi qu'on nous traite comme des brebis pour la boucherie. À cause de toi. Parce qu'on appartient à Dieu. Parce qu'on appartient à Jésus. » Génocide arménien. Mais dans ce génocide, il y avait des chrétiens. D'autres chrétiens, des chrétiens assyriens, sont partis, ont fui dans les déserts, en Irak, en Iran, en Syrie, sont retrouvés face à la mort. Certains ont survécu et aujourd'hui, ils disparaissent tous. Qui dirige le monde aujourd'hui? Il n'y a presque plus de chrétiens là-bas. On a l'impression qu'il y a une poignée d'hommes dans le monde qui déverse sur l'être humain toute la haine, toute la colère du diable. Et je me suis posé la question, avons-nous oublié les chrétiens d'Orient? Comme Chateaubriand, notre célèbre Chateaubriand de Combourg, il y a déjà 150 ans, 170 ans, quand il est arrivé à Jérusalem, il a été surpris de voir Jérusalem. Il dit, on l'avait oublié, Jérusalem. On l'avait oublié. On l'a oublié. Cette Jérusalem qu'il a découverte très pauvre dans ces années-là. Et aujourd'hui, je me dis la même chose, mais on a oublié les chrétiens d'Orient. On a regardé leur mort depuis déjà des dizaines d'années, leur disparition avec indifférence. Mais je vais vous dire, ce sont les héros de la foi d'aujourd'hui. Ces gens ont résisté jusqu'au sang. Les chrétiens d'Orient, c'est le berceau du monde. Les patriarches étaient là-bas. Les apôtres ont été là-bas. Les premiers chrétiens étaient là-bas. On a écrit des épîtres là-bas. On a voyagé pour évangéliser cette région. Aujourd'hui, c'est le chaos. Comme si on nous narguait, on narguait le monde. Et je crois qu'une menace va venir de cette région. Oui, mes amis, je vous dis cela pour vous dire, attachez-vous à Jésus. Le monde est entré dans une époque de folie et de haine. Vous savez ce que dit la Bible ? L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean dit, il a vu sortir du ciel un cheval rouge. Et celui qui le montait sur le cheval, le chevalier, le cavalier, il avait le pouvoir. Ça fait peur d'entendre ça, mais ça s'est déjà arrivé plusieurs fois. Le pouvoir d'enlever la paix sur la terre pour que les hommes s'égorgent. Partout sur la terre, les choses vont mal. Si on a des œillères et des tampons dans les oreilles, alors on dort bien. Mais on se dit aujourd'hui, il est temps de revenir vers Dieu. Cherchez le Seigneur, dit les prophètes, pendant qu'il se trouve. Cherchez-le pendant qu'il est temps, parce que le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Le Seigneur est proche de nous. Il se tient à nos côtés et il nous dit, si tu veux me suivre, tu auras la vie éternelle. On a besoin de cela, mes amis. On a besoin, comme disaient les apôtres, avec un langage que je n'ai pas toujours, fuyez cette génération. Elle va mal. Fuyez la mentalité de ce monde. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Jésus-Christ. Si le Christ était là, il nous dirait les mêmes mots. Et puis il nous dirait, pour conclure, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, vous qui avez peur, vous qui ne savez plus à quelle porte frapper, venez à moi. La porte est étroite, c'est vrai, mais la porte est ouverte. C'est vrai que le chemin est étroit parce que dans ce chemin, eh bien, je dois laisser certains bagages de péché. Mais le chemin est ouvert. Et dans ce chemin, quelqu'un circule avec moi et me porte. C'est le Christ. Venez à moi. Il y a de cela pas très longtemps. Qu'est-ce que 20 siècles ? Ça passe vite. Dans les rues de Jérusalem, un certain soir, un certain matin de printemps, Jésus portait sa croix et montait les ruelles pour aller sur le mont du Calvaire. Il était entouré d'une foule de gens, de femmes, d'hommes, d'enfants, qui se frappaient la poitrine, qui pleuraient, qui riaient, qui chantaient, je ne sais pas. Il montait seul, silencieux, les ruelles de Jérusalem. Et il portait sa croix. Et cette croix, c'est toute la souffrance du monde, c'est tout le péché du monde, c'est tout ce qui va mal, c'est tout ce qui détruit la terre. Et ce Christ sur la croix s'est laissé clouer, s'est laissé mourir, s'est laissé prendre par le mal, par la haine. Il donnait sa vie afin que nous épargnions notre vie. Je vous invite, mes amis, à faire confiance à Jésus-Christ qui est la porte du ciel, la porte de cette vie, la porte de l'éternité. Amen. Les apôtres étaient carrés, simples, mais carrés. Il n'y avait pas d'hésitation. Ils disaient à Jérusalem, sous les portiques de Jérusalem, comme ça. Pierre, surtout, de sa voix forte, je pense, Il n'y a pas d'autre nom que Dieu nous ait donné que le nom de Jésus pour être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Je m'attache à Jésus. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Nous ne pouvons pas refaire le monde, mais Dieu nous appelle à le suivre. Je vous invite à incliner vos têtes quelques instants. Je vais prier le Seigneur avec vous. Je vais prier pour que la main du Christ se pose sur votre main et qu'il vous redise ce qu'il nous a dit depuis le commencement des apôtres. Suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Suis-moi. Il n'y a que la foi qui compte, la foi seule. Par la foi, Dieu fait tout. Il nous refait. Il refait notre monde. Suis-moi. Je prie le Seigneur. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles qui nous font vivre, qui font vivre chaque instant de chaque jour notre existence et qui fera vivre notre vie dans l'éternité. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te donner tout ce qui nous reste à vivre. Nous voulons te dire, efface nos fautes, guéris nos chagrins, comble nos solitudes, calme nos craintes, guéris nos maladies, reste avec nous. Le soir décline, le monde tremble, chancelle. Reste avec nous parce que c'est toi l'espérance, c'est la seule espérance, c'est toi. Merci pour ta parole de ce jour. Oui, tu nous adresses un message magnifique. Amen. Que la paix du Seigneur vous soit donnée. Et n'ayez pas peur de mettre vos pieds dans l'empreinte des pas de Jésus. Amen.